affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans une récente émission consacrée à l'impardonnable XXe siècle, le chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, estimait que pour ne pas reproduire les erreurs et les drames qui avaient jalonné le siècle précédent, il était urgent et primordial de réconcilier science et conscience. Notre émission de ce jour s'inscrit pleinement dans cette préoccupation et cette démarche. Notre invité vient en effet de publier un ouvrage dans lequel il fait état des questions de conscience qu'il assaille en observant les avancées extrêmement rapides et profondes de la science, de la médecine et des technologies, notamment des biotechnologies, lesquelles convergent, comme on va le voir, avec d'autres comme les nanotechnologies ou encore l'informatique, nourrissant un avenir peuplé de possibles rêves, comme une santé améliorée bien sûr, mais aussi de possibles cauchemars. D'où une série de questions posées sans aucun tabou, mais avec beaucoup de tact, sur l'avenir que pourrait prendre notre société sous l'influence de ces avancées scientifiques et technologiques dans un contexte moral particulier qu'il s'agira de décrire également, car les sciences n'ont pas seules leur mot à dire, les idées jouent aussi dans cette affaire. Nous avons donc le plaisir de recevoir dans notre studio quelqu'un de parfaitement qualifié pour aborder ces questions, en la personne de Jean-François Mattei. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre et généticien, membre de l'Institut de France de l'Académie des sciences morales et politiques, pour être plus précis. Vous êtes également membre de l'Académie nationale de médecine. Vous avez présidé la Croix-Rouge française, mais vous avez été également ministre de la Santé, ce qui vous a valu de conduire une loi de révision des lois bioéthiques de 1994 en 2004. Autant d'expériences qui vous ont plongé d'emblée dans le cœur du sujet, non seulement de façon théorique, mais pratique, à la façon d'un acteur, mais aussi quelqu'un obligé de réfléchir à ces sujets au nom de la société. Une première question nous vient toutefois, car votre ouvrage « Question de conscience », sous-titré « De la génétique au post-humanisme », ne vient bien entendu pas par hasard. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Quels sont les faits ou les réflexions qui vous ont conduit à l'écrire aujourd'hui ?
Je pense que l'exposé qu'a dû vous faire le chancelier Gabriel de Breuil était une bonne introduction, comme vous l'avez vous-même souligné. Toutes les questions qui sont soulevées sont des questions de toujours. Les questions d'eugénisme datent de l'Antiquité. La recherche de l'homme doté de facultés particulières a nourri la fiction du début de la mythologie et puis jusqu'à Marie Shelley, Frankenstein et d'autres. Donc, je crois que vous avez raison de dire, mais c'est des sujets de toujours. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Parce que nous avons vécu avec la Deuxième Guerre mondiale un drame sans précédent. Les guerres, il y en a toujours eu. Elles ont toujours été abominables parce que faites de mort et de sang. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même Auschwitz et la Shoah, c'est quand même Hiroshima et Nagasaki, suivi du Goulag. Et il est clair qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes se sont interrogés tout simplement en se posant la question : comment des hommes ont-ils pu faire ça à d'autres hommes ? Et posant cette question, ils ont ni plus ni moins posé la question du fondement de notre humanité. C'est notre humanité qui était remise en question. Alors, à cela, il y a eu deux réponses. La première est une réponse faisant appel à l'éthique. L'éthique est aussi très ancienne. Elle date au moins d'Aristote, avec son livre « L'éthique à Nicomaque ». Mais cette éthique-là est restée en théorie. Elle n'a jamais trouvé de domaine d'application précis. Et si des philosophes au cours des siècles s'y sont intéressés comme Spinoza, elle est restée dans le domaine des pensées, des concepts. Or, si l'éthique est un questionnement sur des situations inédites, c'était bien le moment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de poser la question « Mais qu'est notre humanité ?» Et ils ont fait appel à l'éthique, qui a tout de suite été soutenue par le Code de Nuremberg, qui a remis en avant un certain nombre de principes de respect de la personne, nécessitant son consentement et autres. Et puis la deuxième Déclaration universelle des droits de l'homme, en 48-49, mettant en avant la dignité de la personne. Et cette fois-ci, on a quitté le concept très vite, grâce à ce que vous avez présenté, à savoir la révolution médicale et scientifique au travers des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies n'arrêtent pas de nous assaillir. Donc, voilà la première réponse. On y reviendra dans le détail, naturellement, mais la deuxième réponse est une réponse plus philosophique, celle-là, mais conduite par des déconstructeurs, c'est ainsi qu'on les a appelés, comme Derrida, et puis le nihilisme, l'existentialisme, bref, des gens qui pensaient que l'humanité était morte. Elle ne pouvait plus exister après ce qu'elle avait fait. Et donc, il fallait tout déconstruire, mettre par terre, si je puis dire, tous les repères anciens, les valeurs anciennes, et puis on verrait à reconstruire quelque chose plus tard. Et avec l'aide des nouvelles technologies, c'est bien ce qui pourrait se produire, et c'est ce que proposent les trans et les post-humanistes.
Vous voulez dire que la société est face à... depuis ces drames que vous avez évoqués, serait soumise à une tension entre ceux qui souhaitent incarner, même juridiquement, un nouvel humanisme et tracer des lignes rouges à ne pas franchir ou poser des principes, et d'autres qui, étant dans le relativisme absolu, font sauter toutes les limites.
Absolument. Et les premiers sont dans une interrogation éthique. Et ils disent très clairement que oui, l'humanité n'a pas été conforme, peut-être parce qu'elle avait oublié ce qui l'a fondé, ses valeurs, ses repères, ses idéaux même. Et au travers de ces questions, ils veulent essayer de redéfinir et d'arriver à ce que certains ont appelé un humanisme régénéré, un humanisme refondé, un nouvel humanisme, peu importe. Mais le fait est qu'il faut repartir d'un bon pied si on veut rester fidèle à l'humanisme et à l'humanité dont nous sommes.
Alors précisément, vous l'avez dit, avec l'irruption des nouvelles, un certain nombre de découvertes scientifiques, assez rapidement, dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve face à des dilemmes ou à des situations très concrètes. Dans les premiers chapitres de votre ouvrage, vous expliquez que nos sociétés sont peu ou prou devenues eugénistes. C'est un propos qui peut en surprendre plus d'un.
Je ne crois pas qu'elles soient devenues eugénistes. Elles l'ont toujours été. À Sparte, quand un enfant naissait, il était présenté à son père, qui le regardait sous toutes les coutures, et qui, si il le reconnaissait, l'élevait, c'était en quelque sorte la véritable naissance de l'enfant. Et si l'enfant ne lui convenait pas, notamment pour des motifs de malformation ou autre, il tournait le dos et il s'en allait, et l'enfant était exposé aux bêtes sauvages. Donc Sparte. Ensuite Platon. Platon, dans son livre fameux « La République », au chapitre 5, lorsqu'il traite de la caste des gardiens, dit clairement, en toutes lettres, moi-même ça m'a un peu surpris pour un philosophe de sa qualité, qu'il accepte le principe et qu'il encourage le principe d'eugénisme. Il dit clairement qu'il faut faciliter les rapports entre les hommes et les femmes d'élite et au contraire faire en sorte qu'ils soient le moins fréquents possible chez les gens de qualité inférieure. On est bien là dans l'idée d'une espèce humaine qui recherche une augmentation dans sa qualité, dans son niveau de performance. Et donc, voilà. Ensuite, je fais un grand saut dans l'histoire parce que sinon on est là jusqu'à votre prochaine émission de la semaine. On arrive au 18e, au 19e siècle. Au 19e siècle, c'est clair qu'on voit très bien l'eugénisme avec Gobineau, avec un certain nombre d'écrits qui prônent l'adoption de l'eugénisme. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui probablement, comme dans l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, voit davantage le côté à moitié plein, et donc l'eugénisme va améliorer l'homme. Et comme s'ils ignoraient que si on choisit les meilleurs, il faut bien faire quelque chose des moins bons, c'est-à-dire les abandonner, voire les éliminer. C'est comme ça qu'est né tout simplement l'eugénisme. Et évidemment, il a été servi par des avancées scientifiques. Mais enfin, vous savez, on va faire un tout petit peu de sémantique. Gène, génocide, eugénisme, c'est la même famille. Et on n'a pas besoin de faire des examens génétiques pour les Tutsis et les Hutus essayer de s'entretuer pour supprimer celui qui n'est pas de son identité. Et on pourrait multiplier les exemples. J'en ai malheureusement vu dans mon expérience à la Croix-Rouge. Donc, la suppression de celui qui est différent et la recherche des meilleurs a toujours été. Et d'ailleurs, au moment du nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale que j'évoquais, on n'avait pas encore trouvé l'ADN. On n'avait pas encore identifié le nombre de chromosomes et on était simplement sur une génétique qui se voyait, une génétique d'observation. On parlait des bruns, on parlait des blonds, des yeux bleus, des yeux verts, des gros, des maigres, bref, des intelligents et des moins intelligents. C'était les critères. Je vous rappelle quand même que les critères de la race aryenne ont été à l'origine du génocide absolu. Juifs, tziganes, sans parler des homosexuels qui étaient supprimés systématiquement, on n'avait pas la génétique. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire qu'avec l'arrivée des techniques de la génétique, alors tous toutes les personnes tentées par l'amélioration de l'espèce humaine ont dit « mais voilà, tout ce qu'on voulait depuis des décennies, voire des siècles, eh bien, on a les outils pour le faire, on va y arriver ». Alors il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, quelques années de calme, de silence, parce que les esprits étaient tellement choqués. Mais dès 1993, on a commencé à revoir surgir les questions, mais il faudrait peut-être améliorer, etc., etc. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons les outils pour le faire de plus en plus précisément. Alors, vous me dites, est-ce que la société française est eugénique ? Il y a deux façons de considérer le problème. Ou bien vous le considérez par le biais de la collectivité, de la société elle-même. C'est pour parer le danger d'une société qui se dénonce, qui se dévoilerait comme eugénique, que dans la loi dite de bioéthique de 1994, j'ai introduit un article disant que toute pratique eugénique est interdite. Et donc notre société interdit l'organisation de l'eugénisme. Donc, est-ce que la société française est eugénique ? Non. De première intention, bien sûr. Parce que si vous prenez...
Il y a le mot « organisation » qui est important.
Comment ? Oui, c'est le mot « organisation ». Mais si vous prenez maintenant par le biais des personnes, quand un couple ou une femme viennent consulter en disant « on attend un enfant, mais on voudrait s'assurer qu'il n'est pas, par exemple, trisomique 21 », il demande un diagnostic prénatal en fonction de risques, âge maternel, antécédents familiaux ou autres, peu importe. Et si le diagnostic revient positif en disant « oui, c'est un enfant trisomique », dans plus de 9 cas sur 10, 95% des cas, le couple choisit l'interruption de grossesse. Est-ce que l'interruption d'une grossesse d'un enfant trisomique est une manifestation d'eugénisme ? Je ne le crois pas. Je crois que c'est un couple qui ne se sent pas la force d'affronter la difficulté de prendre en charge un enfant handicapé tout au long de sa vie. Et je ne me permettrai sûrement pas de les juger. Mais quand vous observez que 95% des couples prennent la décision d'interrompre, alors vous êtes bien obligé de dire que l'addition de toutes ces décisions individuelles dessine une société eugénique, qui ne l'est pas officiellement, mais qui l'est dans le vécu, qui l'est dans la réalité. Je suis à peu près convaincu de ça, et je pense qu'il faut lutter contre ça.
Si je résume, l'eugénisme d'État a disparu, mais l'eugénisme comme pratique sociale, individuelle,
est en train de se développer.
Et avec une crainte, si je ne me trompe pas, latente, c'est que les progrès des diagnostics prénataux étant tels, que bientôt on pourrait affiner choix avant la naissance.
Complètement. Complètement, c'est tout le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire. J'ai connu ça puisque c'est toute ma carrière qui a été confrontée à ce sujet, tout mon parcours de généticien. On voit arriver maintenant des machines qui, premièrement, n'ont plus besoin de piquer dans l'utérus de la femme enceinte pour aller chercher des cellules du fœtus, mais qui sont capables de trier dans le sang de la mère après une simple prise de sang, des cellules fœtales qui ont passé le filtre du placenta, et récupérant ces cellules fœtales, on peut amplifier la quantité d'ADN et le faire passer dans une machine qui s'appelle un séquenceur, et on en est à la quatrième ou cinquième génération. On a aujourd'hui ce que l'on appelle des séquenceurs à haut débit, et ça vous donne le génome partiel ou en totalité du fœtus. Et donc, on n'en est plus du tout au tri au regard du nombre de chromosomes, trisomie 21, 13, 18 ou autres anomalies chromosomiques. On n'en est plus au diagnostic du sexe de l'enfant si on craint une hémophilie ou une myopathie. On en est à un début de tentative d'inventaire du génome de l'enfant. Alors, je ne veux pas non plus que nos auditeurs aillent trop loin dans leurs conclusions. Nous en sommes encore au balbutiement du séquençage à haut débit. Mais enfin, nous commençons en France comme ailleurs à installer dans nos grands centres hospitalo-universitaires des plateformes de séquençage qui sont destinées d'abord pour des diagnostics biologiques de leucémie, de maladies neurologiques, de maladies génétiques et autres, mais aussi pour faire l'étude du génome des enfants à naître. Et donc, ça va se développer, et ça coûtera de moins en moins cher, et ça sera de plus en plus précis. Et c'est bien la raison pour laquelle je pense qu'il faut poser une question clé. La qualité d'une personne dépend-elle de la qualité de ses gènes ? Alors, vous discutez avec des gens de diagnostic prénatal et ils trouvent toujours l'argument de dire « Oui, mais si c'était vous que ça concernait, un enfant handicapé mental profond, c'est quand même pas facile, la société est égoïste, on n'a pas assez de politique d'accompagnement des personnes en situation de handicap, etc. »
Tout ça, c'est vrai.
Ce que j'entends, c'est tout à fait vrai. Mais quand vous les avez bien entendu exposer leurs arguments, je vous rejoins, qui sonnent vrais, vous leur dites « Bon, écoutez, est-ce que vous pensez vraiment que la qualité d'une personne dépend de la qualité de ses gènes ?» Alors, je peux vous dire, dans tous les cas, comme ils ne s'étaient jamais posé la question en ces termes, ils vous regardent, les yeux ronds, la bouche ouverte, en disant « Mais non, mais pourquoi vous dites ça ?» Je leur dis « Parce que c'est la base du diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire, l'étude des gènes, et quand c'est bon, on garde, et quand c'est mauvais, on jette. » Et donc, vous êtes exactement dans la question que je vous pose, et je vous fais remarquer que des gens comme Toulouse-Lautrec, comme Stefano King, comme Petrucciani, comme Beethoven et d'autres n'avaient peut-être pas que des bons gènes, et pourtant ils étaient d'une haute qualité qui font qu'ils ont laissé leurs traces dans la culture, donc dans nos sociétés. Et je pense qu'il faut se battre contre l'idée de la sélection, parce qu'en outre, ça a un très grand danger, c'est que ça dénie tout sens aux personnes porteuses de handicap. Or, moi, je pense que dans nos sociétés, le handicap a probablement une signification. Sans le handicap, nous nous interrogerions peut-être un peu moins sur nos valeurs, le sens de notre humanité, sur le sens de la fragilité, de la vulnérabilité, de l'aide que l'on peut apporter. Bref, je pense que les personnes en situation de handicap mettent à l'épreuve la qualité de notre humanité.
Mettent aussi peut-être à l'épreuve le sens et les objectifs, les finalités de la médecine.
Oui, mais alors, là encore, c'est une question qui vient à point, parce qu'on en était pour l'instant au diagnostic, qui se pose pour des gens comme moi, médecins, dans un terme alternatif un peu brutal. Faut-il supprimer ou soigner ? Comme pour le moment, on ne sait pratiquement pas soigner, il vous reste la suppression. Et donc, tous mes efforts, tous mes espoirs tendent vers la recherche en génétique pour aboutir à la thérapeutique. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Le génie humain a triomphé pratiquement de tout. On est en train, c'est pas pour demain, mais on progresse considérablement dans le domaine du cancer, on progresse dans le domaine des maladies neurologiques, on progresse dans tout. On fait des choses merveilleuses, vous le voyez. Eh bien, je pense que d'ici 10, 20, 30 ans peut-être, nous saurons guérir les maladies génétiques. Parce qu'il y en a de très nombreuses, plusieurs milliers, 7000, 8000. Le nombre augmente avec l'identification des gènes. Mais les mécanismes sont souvent les mêmes. Vous avez un gène qui est abîmé, mais que ce soit le gène 1, 2, 3, 4 ou 5, le mécanisme qui va permettre de l'arranger, si je puis dire, et sera souvent le même. Or, on a récemment trouvé, et on a eu un très bel exposé à l'Académie des sciences ici, par les personnes, notamment Mme Charpentier, qui ont contribué à cette découverte, qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un coupé-collé en informatique. Eh bien, le CRISPR-Cas9, c'est un coupé-collé moléculaire. Et donc, avec ces petits ciseaux moléculaires, on commence à être capable de remplacer des gènes malades. Et donc, je ne voudrais pas qu'on prenne l'habitude de supprimer ceux qui ne conviennent pas avant même qu'on soit capable de les guérir.
Toutefois, j'étais un petit peu effondré, surpris et plein de perplexité en découvrant l'une des définitions de la médecine qui mettait l'accent sur le bien-être.
Oui, mais
est-ce que ça n'ouvre pas la porte à... Alors, cette définition n'ouvre pas la porte à toutes les dérives ?
Oui, mais je pense que la santé est à multiples facettes. Vous faites allusion à la définition de la santé qu'a donnée l'Organisation mondiale de la santé en 1946 dans l'avant-propos introductif de sa constitution, à savoir que la santé est un complet état de bien-être physique, mental et social qui n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. Et donc, ce n'est ni plus ni moins que la définition du bonheur. Donc, évidemment, c'est extrêmement ambitieux. C'est
très extensif, tout ça.
Oui, mais je vais argumenter pour montrer que vous n'avez sans doute pas raison en critiquant cette belle définition. C'est vrai qu'elle est ambitieuse et que tout ce qui est ambitieux est dangereux. Et vous avez raison de souligner les dangers. Mais est-ce que la prévention de l'alcoolisme, du tabagisme, des addictions, quelles soient, est-ce que de prétendre à donner des règles de vie pour améliorer la qualité de vie et la longévité ne relève pas du domaine de la santé? Bien sûr que si. Est-ce que quand on vous dit à la télé, et surtout ne dites pas que c'est pas bien parce que c'est moi qui l'ai émis, qu'il faut manger 5 légumes ou fruits chaque jour, ou qu'il faut faire 30 minutes d'exercice physique chaque jour, c'est bien pour essayer de faire en sorte que vous ayez une meilleure nutrition et que vous ayez une meilleure résistance physique, musculaire à l'effort. Donc, la santé, c'est également la prévention. Qu'est-ce qu'est la vaccination qui a été si décriée ces temps-ci et fait l'objet de polémiques à tort? La vaccination, c'est vous permettre de mieux vous défendre contre une infection qui pourrait vous faire du mal. C'est de la médecine et pourtant, ça ne soigne pas. Je vais prendre d'autres exemples. On a également créé la médecine aéronautique, astrophysique. On a créé la médecine océanographique. Et cette médecine, elle n'est pas là pour soigner les gens. Elle est là pour leur permettre de mieux s'adapter dans des conditions extrêmes. Donc, la médecine, elle est bien sûr, en premier lieu, le soin, parce que ça urge et qu'on ne peut pas laisser les gens mourir. Donc, d'abord soigner. Mais vous connaissez l'aphorisme, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, la prévention, c'est aussi la santé. Et quand vous êtes en bonne santé, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Et si vous répondez ça va, vous pensez qu'il est heureux. Et donc, il n'y a pas de problème. Il y a un lien entre le bonheur et la santé.
Oui, il y a un lien, mais si la médecine s'en tient à offrir cette santé qui est nécessaire, parfait. Mais je trouve qu'en mettant l'accès sur la quête du bien-être, et vous l'écrivez vous-même, du bonheur, on entr'ouvre quand même au minimum la porte à la possibilité de se dire « Oui, mais l'homme augmenté que nous vantent les transhumanistes sera nécessairement plus heureux car il aura davantage de performance, il sera lui-même plus résistant éventuellement à tel type d'affection, il se fatiguera moins, il aura éventuellement des gènes plus résistants aux addictions. La limite devient plus difficile. »
Mais vous avez parfaitement raison. Alors d'abord, ni vous ni moi, puisque j'évoque ce sujet difficile dans le livre, nous ne pourrons mieux répondre à cette question que les philosophes qui nous ont précédés. Ça a déjà été discuté. Quelle est la limite entre le normal et le pathologique? Nous sommes bien incapables de le dire. Et alors, j'ai été confronté à ça avec le diagnostic prénatal, parce que sur la trisomie 21, c'est un diagnostic que vous posez. Il est sûr, il est connu. Mais quand, avec une échographie, on voit qu'il manque une main, on voit qu'il manque un avant-bras ou un bras. Est-ce que quelqu'un ne peut vraiment pas vivre parce qu'il lui manque une main, parce qu'il lui manque un avant-bras, un bras, pourquoi pas les deux bras? À partir de quand? Alors, ça, c'est une question qui a été posée notamment par Canguilhem sur la limite entre le normal et le pathologique. Mais vous évoquiez, avant de parler de la limite, tout simplement de l'ouverture que la médecine propose en adoptant une voie que j'ai appelée la voie du méliorisme, c'est-à-dire du toujours mieux. Mieux dormir, mieux manger, meilleure sexualité, meilleur sommeil. Alors, j'ai fait l'expérience dans un certain nombre de mes conférences ou même de mes cours devant les étudiants. Je les amène d'abord dans un premier temps à dire qu'il ne faut pas trop manipuler le corps humain, la biologie, etc. Puis quand je leur demande ex abrupto, Si vous êtes insomniaque ou gros dormeur, est-ce que vous n'aimeriez pas que la qualité de votre sommeil soit améliorée? Ben, ils disent oui, tous. Bon, donc, en clair, les gens aspirent à l'amélioration, n'en voient pas très exactement la limite, sauf quand je me mets à aborder le problème du dopage. Car en définitive, qu'est-ce que le dopage, sinon la recherche de l'amélioration des performances physiques? Et je leur décris l'utilisation de l'érythropoïétine, c'est-à-dire l'augmentation des globules rouges, en faisant exprès de procéder étape par étape avec des questions. Je leur dis, mais d'aller à Font-Romeu, en haute altitude, où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, ce qui augmente évidemment le nombre de globules rouges des athlètes qui reviennent en plaine avec beaucoup de globules rouges et sont plus performants, est-ce que ça vous paraît choquant? Bon, ils disent, allez en haute altitude, à Font-Romeu, non, ce n'est pas choquant. Alors, je passe à la deuxième étape et je leur dis, mais d'accord, mais on peut faire l'économie peut-être d'aller là-bas. Si on fait des autotransfusions ou si on utilise les chambres d'hypoxie, on met les athlètes dans une chambre en hypoxie pendant plusieurs heures par jour. Alors là, ils commencent à dire, oui, mais enfin là, c'est un peu artificiel, mais oui, c'est vrai, le résultat est le même. Je leur dis, oui, comment vous faites le distinguo entre celui qui a été en altitude ou celui qui a été en chambre d'hypoxie? On ne peut pas faire le distinguo, comment vous faites? Alors, et je leur dis, alors après, l'étape d'après, on fait une injection d'érythropoïétine, et puis l'étape d'après, on fait un transfert du gène de l'érythropoïétine chez les futurs champions. Et alors là, ils sont, pardonnez-moi l'expression triviale, ils sont le bec dans l'eau. Ils ne peuvent pas répondre, pas plus que moi. Quelle est la limite? Où est la limite?
Les trois premières techniques sont conjoncturelles, transitoires. Elles ont une fin dans le temps. La quatrième, on modifie l'essence même de la personne.
Alors je
C'est
suis
peut-être
d'accord,
une première limite.
Je suis d'accord, on élimine la quatrième. Reste la troisième, les injections d'érythropoïétine.
Je ne suis pas assez amateur de sport pour répondre.
Non,
mais, il le faudrait, bon, mais je comprends.
Je ne vais pas répondre. Je veux simplement dire que nous entrons dans un domaine dont s'est emparé le transhumanisme en disant, mais regardez, il est évident qu'avec les nouveaux moyens, il faut aller vers l'homme amélioré. L'homme qui s'essouffle en montant 4 étages pour venir à Canal Academy en n'en prenant pas l'ascenseur, bon, bah, il faudrait peut-être qu'il ait une meilleure résistance. Donc moi, j'entends ce raisonnement et alors je m'intéresse au transhumanisme. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces braves gens? Alors je lis leurs 3 objectifs principaux qu'ils ont définis à Paris en 2014. Premièrement, nous voulons favoriser et soutenir la recherche et la lutte contre les maladies. Je dis, ben, moi, ça me convient tout à fait. Et nous voulons améliorer les qualités de la personne. Alors là, j'ai tout de suite une petite lumière qui s'allume en disant, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va y revenir. Mais comme quoi, ils ont l'astuce de présenter des propositions en 2 parties. La première, vous adhérez. La deuxième, ils glissent quelque chose qui est beaucoup moins recevable. De même, deuxième grand objectif, on veut lutter contre les effets du vieillissement. Mais évidemment, tout le monde est d'accord. Et arriver jusqu'à supprimer la mort et atteindre l'immortalité. Alors là, vous êtes de nouveau dans un fragment de phrase où vous dites, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... Bon. Et puis enfin, il termine en disant, et puis de toute façon, comme l'homme, depuis l'algue bleue, est arrivé à son stade maintenant, mais qu'il n'est pas fini, il va continuer d'évoluer. Et plutôt que de le laisser évoluer au hasard, on ne sait pas avec quels risques et quels ratés éventuels, on va se charger de contrôler son évolution, voire de la guider. Et là, on revient à Prométhée et à ceux qui veulent se prendre pour des dieux. Donc, je pense que si la médecine... d'une certaine façon, a ouvert la voie du méliorisme, elle ne peut pas épouser les finalités du trans et du post-humanisme que je mets dans le même sac parce que le trans,
il
conduit au post-humanisme. Alors pourquoi? Je peux vous résumer ça très rapidement. D'une part, parce que le transhumanisme ne raisonne que en fonction d'un homme qui serait exclusivement le résultat de son génome. On va changer les gènes, on va améliorer les gènes, on va modifier les gènes, on va stimuler. Mais est-ce que l'homme est réductible à son seul génome ? La réponse, pour moi, est non. Et je cite dans mon livre l'observation des enfants dits sauvages. Ces enfants, petits d'hommes, qui viennent au monde, ils ne ressemblent évidemment ni à un hippopotame ni à un rhinocéros. Ce sont des petits d'hommes. Ils ont une tête, un tronc, un bassin, deux jambes, deux bras. Ils sont hominisés. Et cette hominisation dépend de leur biologie. Mais si vous les abandonnez à cet instant-là et que vous les retrouvez quelques années plus tard, ces enfants marchent à quatre pattes et ne savent pas marcher, ils n'ont jamais appris, ils ne savent évidemment pas parler, ils mangent exactement comme les animaux directement en broutant ou en croquant des racines. Bref, ils ne se sont pas humanisés. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on oublie cela trop souvent. L'homme est la seule espèce animale qui n'est pas totalement héréditaire. Quand l'homme vient au monde, il est hominisé, il lui faut encore s'humaniser grâce à ses parents, son entourage, la culture qui l'entoure. Et c'est le mot « culture » qui m'importe, à l'opposé à la nature biologique. L'homme est un être de nature et de culture, et donc je ne peux pas suivre les trans et post-humanistes lorsqu'ils pensent que l'homme n'est que génétique. La deuxième raison, c'est une question triviale, c'est une question d'argent, c'est une question d'économie. Comme toutes ces techniques vont coûter extrêmement cher, quand il s'agira de soigner, tout le monde sera remboursé, mais qu'il s'agira d'améliorer, par exemple, acquérir la vision nocturne comme les hiboux, les chouettes, les chats, ou se guider aux ultrasons comme les chauves-souris ou tant d'autres, ça sera une amélioration qui sera en définitive de convenance personnelle, qui ne sera pas remboursée. Et donc, seuls les nantis, ceux qui auront l'argent pour s'offrir ces techniques, le feront. Et nous aurons à terme une société avec une nouvelle lutte de classe, les nantis toujours plus performants et plus puissants, et ceux qui ne pourront pas s'offrir ces modifications, qui seront cantonnés dans des tâches subalternes, voire éliminés. C'est ce que dit le post-humaniste Moravec aux États-Unis quand on lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous allez faire de ces milliards de gens que vous n'aurez pas pu améliorer ?» Il vous regarde et il dit « Mais enfin, les tyrannosaures ont bien disparu. » Donc pour lui, il n'y a pas de doute, les gens qui resteraient dans leur état de fragilité actuelle seraient supprimés. Donc ce n'est pas acceptable. Troisième argument, l'argument du lien social. Notre société ne vit que parce que nous sommes une société où le faible sollicite le plus fort et où le fort vient aider le plus faible. C'est ça qui crée des échanges et le lien social. Et dans le post-humanisme, chacun est à la recherche de sa perfection et campe sur ses hauteurs de la perfection en se moquant totalement des autres dont il n'a pas besoin. Nous ne pouvons pas accepter ça non plus. Alors, il y a d'autres arguments sur lesquels je ne vais pas m'apesantir parce que le temps tourne, mais l'immortalité, ça mériterait en soi une émission complète. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de la vie ? C'est l'espérance du lendemain. Et si vous avez une vie d'immortalité, bien sûr que la mort fait peur quelquefois, mais après tout, est-ce que d'être vivant définitivement pour la vie des temps... ça vous satisferait, ça vous rendrait heureux, mais pas du tout. Je pense que ça n'est pas compatible avec la vie de l'homme, tout simplement. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et puis le summum, le sommet des post-humanistes, c'est de dire, de toute façon, d'ici 2045, c'est le grand gourou Kurzweil, Ray Kurzweil, évidemment, de la Silicon Valley qui dit ça.
Oui, qui n'est pas seulement un gourou, hein, c'est un acteur, un chercheur,
oui, bien sûr,
employé par des gens.
Par Google, on peut le dire, qui est employé par Google pour ça et qui dit en 2045, eh bien, nous serons en situation de transférer le contenu du cerveau des hommes sur un support logiciel numérique. Et du coup, ben, les gens, ce qui compte, c'est leur cerveau, c'est leurs émotions, c'est leur etc. Et on n'aura plus du tout besoin du corps. Et alors, on n'aura plus besoin de lutter contre les maladies. Et d'ailleurs, l'immortalité sera acquise de cette façon-là. Je vous laisse à penser ce que tout cela peut entraîner. Sans le corps, plus de séduction, plus de plaisir, plus de désir, et d'être réduit à l'état d'un logiciel me paraît assez réducteur, d'autant que vous voyez bien que les plus grandes entreprises multinationales parées de toutes les sécurités possibles se font hacker, et je pense bien que ces cerveaux sous forme de logiciels numériques seraient pris en main assez rapidement par ceux qui voudraient en faire ce qu'ils veulent. Et donc, je pense que même si la médecine va vers du méliorisme, elle ne peut pas épouser les finalités du post-humanisme.
S'agissant du post-humanisme, sans aucun doute, la description que vous en faites qui est parfaitement vraie, parce qu'au fond de tout ça, il y a probablement une haine de soi. Et c'est pour ça que c'était intéressant lorsqu'au début de l'émission, vous avez évoqué les désillusions qui ont été provoquées par le premier conflit mondial, le second,
les massacres et autres. C'est la haine de soi, je l'exagère.
Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce vieux fond où on commence par vouloir améliorer, faire une surhumanité, mais en fait, au fond, le rêve, c'est d'en finir avec l'humanité parce qu'on la juge coupable de ci ou de cela. Tout cela est terrifiant. En revanche, s'agissant du premier étage, celui de l'homme augmenté et de cette forme déjà plus ou moins présente quand même de transhumanisme, on ne peut être que frappé par le fait que les arguments que vous lui opposez sont des arguments sociaux, moraux, mais qui existent de toute éternité et qui sont certes d'une qualité plus élevée, mais que les valeurs, à mon avis, réellement présentes dans la société, comme l'hédonisme, le narcissisme, l'individualisme, finalement, est-ce que...
Le matérialisme,
tout cela est bien présent aussi, bien vif, s'articule à certains égards avec l'organisation politique, sociale, économique de notre société, avec ses valeurs. La partie n'est pas gagnée, quand même. Hein.
Oui, mais alors là, je vais vous parler avec... ma casquette de président de la Croix-Rouge française pendant plus de 9 ans. Quand on regarde les pays en voie d'émergence aujourd'hui, les pays en voie de développement, on se disait qu'ils allaient peut-être rattraper, car ils ont une jeunesse dynamique, nombreuse, ils ont des produits intérieurs bruts, une croissance qui est très satisfaisante, et des ressources naturelles en quantité. Mais je crois qu'avec les nouvelles technologies qui se développent, d'une part dans la Silicon Valley et d'autre part en Chine, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la Chine, mais c'est l'autre pôle où se développe ce type de technique, je pense qu'au contraire, le fossé se creuse. Je pense qu'ils en sont à nous rattraper sur ce qu'on était dans les années passées, à l'exception de l'épisode du téléphone mobile qui leur a permis de court-circuiter le téléphone filaire. Mais à côté de ça, vous vous rendez compte, on en est à la chirurgie robotisée et eux, ils n'ont même pas de service de chirurgie qui fonctionne encore dans toutes les grosses villes de leur pays. Donc, moi, je suis très inquiet là-dessus. Alors, il s'agit de savoir, il y a deux options. Ou vous prenez l'option définitivement de vous débarrasser de ceux qui ne suivent pas la vitesse du progrès, et puis quantité négligeable, ils deviendront, c'est mort avec. Ou bien vous dites, attendez, on ne peut pas laisser une partie de l'humanité comme cela. Et je n'insiste pas sur le conflit que pourrait donner le soulèvement de masse de ces milliards de personnes qui se sentiraient totalement abandonnées. Donc, je préfère ne pas évoquer ça. En réalité, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé encore, mais je pense qu'il pourrait peut-être nous servir pour aborder la conclusion. C'est qu'en réalité, dans un monde qui cherche des raisons d'être heureux, il lui manque une mythologie. les mythologies anciennes ont vécu, ont été servies, resservies, Prométhée, tout le monde connaît, ça ne correspond plus à la réalité. On ne peut pas se raccrocher à Prométhée, c'est pas vrai, même si on le cite pour dire que ça vient de loin. Or, avec la mythologie du post-humanisme aujourd'hui, vous avez l'immortalité. Quand vous lisez la mythologie de Mésopotamie, c'est en Mésopotamie que Gilgamesh s'en va pour chercher l'herbe de l'immortalité. Donc c'est le même problème, simplement il faut actualiser. On ne peut pas sans arrêt parler de Gilgamesh, de Prométhée et les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes ont besoin d'une mythologie moderne pour les aider à se situer dans leur quête d'idéal, de bonheur et d'espérance.
La solution face au règne de la technique ne réside donc pas dans la technique, même s'il faut la comprendre certainement.
Il faut, Bergson disait très justement, mais il n'est pas le seul, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. J'ai toujours essayé de faire cela, ce n'est pas toujours très facile, et c'est plutôt par phase. Mais je suis quand même assez stupéfait que tout le monde aujourd'hui se lance dans l'intelligence artificielle, qu'on est déjà très avancé dans l'action de l'intelligence artificielle et que la réflexion démarre à peine. Donc il y a un décalage et je pense que c'est ce décalage qu'il faut combler.
Face à l'intelligence artificielle, face à toutes les autres avancées, vous en appelez donc à l'intelligence humaine, faite de sensibilité, mais aussi de spiritualité, si j'ai bien compris. Vous en appelez aussi à une culture du doute et du questionnement. On retrouve d'ailleurs cela dans le titre de votre ouvrage, « Question de conscience », et aussi dans le dernier chapitre, qui se termine par un point d'interrogation. Est-il possible de conclure ? Certainement pas, car l'histoire reste à écrire, comme toujours. Je propose à chacun de participer à cette réflexion qui ne peut être que collective, en commençant par se plonger donc dans « Question de conscience de la génétique au post-humanisme » par Jean-François Mattei aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup.
Merci à vous.